à Rencontre spirituelle. Aujourd'hui, en ce 2 mai, c'est la fête d'un très 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 grand saint qui risque de ne pas vous intéresser à prime abord, mais de grâce, ça vaut la peine d'écouter. Je vous concède qu'il est mort il y a bien longtemps, en 373. Mais quel homme étonnant! Que ce saint Athanase d'Alexandrie. Alexandrie, c'est en Égypte. Vous savez qu'en Égypte, il y a des chrétiens. Ce sont les Coptes. Une petite partie des Coptes sont unis à l'Église catholique. Et les autres sont malheureusement séparés depuis très longtemps. Et Athanase a été, à l'époque où il n'y avait pas encore de schisme, de séparation totale, et il a été leur grand évêque, il est docteur de l'Église, saint Athanase. C'est un homme d'un très, très grand courage, auquel encore, aujourd'hui, en cette fin du XXe siècle, nous devons beaucoup. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. D'ailleurs, ceux qui ont le sentiment parfois de découragement parce qu'ils ont un peu de mauvais caractère pourront invoquer saint Athanase. On dit qu'il avait parfois un certain caractère. On dit même de lui, ce mauvais caractère est un grand caractère. Ce sont des jugements qu'on a donnés sur lui à travers les siècles. Il a été évêque pendant 45 ans. Il est devenu évêque très jeune, à 33 ans. Puis il a passé 20 ans en exil, tellement il a combattu sous l'empereur Constantin s'opposait à lui. Et il a combattu une hérésie extrêmement importante que l'on retrouve aujourd'hui très répandue, c'est l'hérésie d'Arius, les Ariens, comme on les appelle. C'était pas un mauvais homme qu'Arius, finalement. Hein. C'était un dissident sur la foi. C'était un homme têtu qui affirmait des choses qui étaient contraires à la foi catholique, ou à la fois orthodoxe, si vous voulez, puisque c'est confondu. Hein. À l'époque, orthodoxe, catholique, c'est la même chose à cette époque-là. Cet adolescent, qui est né sur les bords du Nil, a été effrayé dans sa jeunesse par les horreurs de la persécution de l'empereur Dioclétien, qui a fait tuer quantité de gens, même que Dioclétien s'est rendu sur place pour voir à ce que les persécutions contre les chrétiens soient exécutées et comme il le désirait. Et cet adolescent est devenu très tôt secrétaire du vieil évêque Alexandre, Alexandre d'Alexandrie. Et puis, il s'est mis à désirer une certaine véritable avec l'empereur, avec les gens qui ne croyaient pas selon les principes des grands conciles, particulièrement le concile de Nicée, c'est le grand concile de 325. Voyez-vous, il est né en 295, mais il était là à 30 ans au concile de Nicée. C'est un concile qui a condamné Arius, ce prêtre dont je viens de vous parler, qui a été son adversaire implacable. Et lorsque le 7 juin 328, 3 ans après le concile, saint Athanase est sacré évêque de Alexandrie, qui est la métropole égyptienne, mais il est devenu, comme je vous ai dit, à 33 ans, le second personnage de l'Empire. Il devenait le prélat, comme on dit, oriental, c'est une façon de parler, ça. Il y a l'Église d'Orient, l'Église d'Occident, c'est la même Église, mais elle a deux traditions différentes. Il est donc le prélat oriental le plus influent. Et comme évêque, on peut dire que son épiscopat a été qualifié d'une espèce de tragicomédie. C'est une série de drames qui se succèdent les uns les autres. Je pourrais vous les expliquer, oui, en une heure, mais ce serait tellement concis qu'on aurait peine à tout comprendre ce qui se passe. tellement cet homme a été un combattant, un ardent, condamné, réintégré, sauvé par le pape, ramené, voyageant à travers l'Europe dans des conditions extrêmement difficiles, se rendant même à Constantinople. C'est extraordinaire sa vie, c'est une vie absolument mystérieuse, courageuse et phénoménale. C'est un combat pour la vérité, c'est un combat pour l'orthodoxie. La pensée orthodoxe, la pensée véritable, comme on dit, c'est ça que ça veut dire orthodoxe, hein? La pensée indépendante aussi, qui se libère des obligations de croire sous peine de mort. Il est prêt à affronter la mort. C'est un polémiste, c'est-à-dire quelqu'un qui discute d'une façon redoutable. Et il est tellement redoutable que il a laissé l'impression à beaucoup, puis moi c'est bien l'impression que j'ai, quand on lit ses textes, qu'il est responsable un peu de certaines divisions. Il a manqué de souplesse, à mon avis. Mais c'est l'époque. C'est une époque difficile. C'est pas comme aujourd'hui. Mais il s'est aussi rassemblé. S'il s'est divisé parfois, la plupart du temps, il s'est rassemblé puis unifié. C'est un grand ami de Saint Pacôme, dont je vais vous parler dans une semaine exactement. Jeudi, le 9, Saint Pacôme. Vous allez dire, mon Dieu, il va parler des gens qui ont vécu il y a bien longtemps. Mais vous allez voir comme c'est intéressant, Saint Pacôme. Hein? C'est lui qui est le père, si on peut dire, du cénobitisme, c'est-à-dire des moines qui vivent ensemble. Et Dieu sait que, à travers toute l'histoire du christianisme depuis l'époque de Saint Pacôme, on doit aux cénobites, aux moines qui vivent ensemble, notre civilisation occidentale. Vous allez dire que je charrie. Mais c'est pas n'importe qui le dit. Faudrait que je vous lise à cette occasion des extraits d'un livre écrit par un athée. Il est un des plus grands sociologues et politicologues du XXe siècle et qui a écrit ce livre admirable qui s'appelle « Le monde vivant des religieux » où il montre que l'on doit en Occident la démocratie, le sens des vraies valeurs, l'assainissement des marais, la fondation des villes, la culture, le sauvetage des écrits anciens, des Grecs et des Latins, le partage de la civilisation avec les Arabes à la plus grande époque de l'islam. Tout ça, les moines ont tellement fait pour l'Occident qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, puis on pense qu'ils ne font que du fromage, des chocolats, du cirage, comme on en fait en France pour les chaussures, et des choses comme ça. Heureusement, à Radio Ville-Marie, M. René Barbin fait souvent tourner des disques des moines pour nous montrer sous le rapport du chant grégorien, la grandeur de ces hommes, la grandeur aussi de ces femmes moniales, qui conservent dans notre siècle encore cette dimension verticale qui est extrêmement importante, cet élan vers Dieu. Et alors, s'il est l'ami de Saint Pacôme, il est l'ami aussi de Saint Antoine. Il est, par contre, Saint Antoine, un autre grand moine, il est l'ennemi de deux hérétiques de son époque, Mélès et Esquiras. Mais je ne compte pas vous parler d'eux, je vais vous parler surtout d'Arius. Il a été exilé par Constance et puis rappelé par l'empereur Julien. Il est exilé ensuite par Julien, puis rétabli par un autre qui s'appelait Jovien. Vous voyez, je vous résume cette espèce de valse des décrets des empereurs pour ou contre cet homme extrêmement discuté. C'était un pontife. C'était un grand homme. Par contre, certains ont dit qu'il était petit. Il était souvent considéré comme un gêneur qui, certains disent, qu'il mobilisait le Saint-Esprit. Il y avait le Saint-Esprit avec lui. Ça pourrait expliquer le sens de son rêve. Son rêve, le grand arbre qui va mourir, c'est l'Empire romain, disait-il. Et la petite graine qui va grandir, c'est l'Église. Quand il discute avec les Ariens qui nient la divinité de Jésus-Christ, qu'il prétend que c'est Dieu le Père qui a créé son Fils, que le Fils n'est pas éternel. Alors il dit dans cette apologie à Constance, à l'empereur Constance, une apologie, c'est une défense de la foi. On étudiait ça au collège Brébeuf quand j'étais jeune, on faisait de l'apologétique. C'était la connaissance des arguments pour défendre la foi chrétienne, la foi catholique en particulier. Alors donc, saint Athanase d'Alexandrie, évêque et docteur de l'Église, je vous rappelle qu'il est né en 295 et mort en 373, assez âgé comme vous voyez, il dit « J'entends les Ariens baratiner sur mon compte. Ils me traitent de lâche parce que je les empêche de m'assassiner. Mais regarde-les. Voici Narcisse, évêque arien, parjure, perclus de crime, déposé par trois conciles. Et voilà Georges, autre évêque arien, réduit à l'état laïque à cause de ses vices, et qui lui-même se sacre évêque. Comme si quelqu'un pouvait se sacrer évêque. Ça n'a pas de sens. Hein? Alors Athanase continue. Ce sont ces gens qu'élève à l'épiscopat Constance l'hérétique. Alors il s'attaque à l'empereur Constance, le traite d'hérétique. Il n'y va pas de main morte. Hein? Il continue. Considérez ces évêques. Ils opèrent une volte-face et, comme des chiens, reviennent à leur vomissement pour se rouler dans le bourbier de l'impiété tel des porcs. Vous voyez le genre de langage qu'utilisait ce saint. Je vous ai prévenu, hein, c'est un homme exceptionnellement curieux. Il ajoute, s'agit-il de comédies préfabriquées? Ces pseudo-évêques ne sont que des comédiens. Il y eut, avant Constance, l'empereur Constance, bien des conciles, bien des décisions ecclésiales. Mais alors, les évêques ne demandent rien à l'empereur et ce dernier ne se mêle pas des affaires de l'Église. Je vous montre ça dès le début pour que vous saisissiez un peu de qui il est question. Il est natif d'Alexandrie, Athanase. Il voit le jour, donc, vers 295, ses parents, dont nous ne connaissons absolument rien, étaient sans doute chrétiens, puis d'origine grecque. Il a eu un frère qui s'appelait Pierre, qui va lui succéder sur le trône épiscopal d'Alexandrie, la métropole de l'Égypte. Grand pays chrétien à l'époque. Pays extrêmement important pour l'expansion du christianisme à travers le monde. Et le milieu dans lequel il se trouve contribue à lui former une âme de combattant. Parce qu'on y voyait des juifs nombreux et puissants qui faisaient du commerce très important à Alexandrie. Il vivait presque à l'écart de la vie commune. Il y avait aussi des païens qui étaient adorateurs de Sérapis. Puis il y avait des chrétiens rattachés les uns à la grande église catholique et orthodoxe à la fois, et les autres à diverses sectes, plus ou moins hétérodoxes. Il y avait les manichéens, puis les gnostiques, et la persécution de Dioclétien, dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'est faite cruellement sentir, et des Égyptiens courageux savent confesser leur foi, mais beaucoup cependant apostasient. Puis l'évêque se préoccupe de fixer les conditions auxquelles il pourrait être reçu en cas de repentir. Et Athanase, bien jeune, ne conserve pas de souvenirs très précis des scènes de la persécution. Mais il les entend raconter, puis il apprend dans ses récits jusqu'où peut aller l'amour des chrétiens pour leur maître Jésus-Christ? Et ça, ça va le façonner. Son amour pour Jésus-Christ va l'établir dans une foi profonde en la divinité de Jésus. Il y a un incident dans son enfance qui est raconté par Ruffin, qui est un petit peu suspect cet incident, mais ça nous montre la vivacité de la foi chez Athanase, jeune. Alors on ne peut pas passer cet incident sous silence, il est très connu dans la vie d'Athanase. C'est le clergé d'Alexandrie qui s'est réuni autour de l'évêque Alexandre pour fêter l'anniversaire de Saint-Pierre. Par la fenêtre ouverte de la maison épiscopale, on peut apercevoir sur la plage un groupe d'enfants qui s'amusent à reproduire les cérémonies de l'Église. Puis l'évêque Alexandre remarque à un certain moment que les gamins gardent une attitude plus grave et plus recueillie. Alors il ordonne à l'un de ses prêtres de les lui amener afin de pouvoir les interroger lui-même. Alors il constate qu'au cours des amusements, bien le jeune Athanase, qui est le chef de la bande, a baptisé plusieurs de ses camarades. Oui, il les a baptisés. Alors, il n'y a pas eu de peine à se rendre compte que le baptême était valide. Vous savez qu'un laïc peut baptiser un autre laïc. Hein? C'est un des seuls sacrements que les laïcs peuvent administrer. Nous administrons, je vous le rappelle, le sacrement du mariage. Hein? C'est pas le prêtre qui nous marie. C'est nous qui nous marions devant un prêtre qui bénit notre union que nous nous donnons de par le pouvoir même de notre baptême. C'est bon de le rappeler que les laïcs ont le pouvoir de baptiser, le pouvoir de se marier. Mais nous n'avons pas le pouvoir de pardonner les péchés. Nous n'avons pas le pouvoir de célébrer la messe, l'Eucharistie. Nous célébrons, mais avec le prêtre, c'est lui qui préside. Et nous ne pouvons pas administrer le sacrement des malades. Nous ne pouvons pas, évidemment, ordonner de prêtre, encore moins consacrer d'évêque. Mais nous avons le droit de témoigner de notre foi. Ça, c'est autre chose. Et c'est même un devoir. Du fond de notre baptême et de notre confirmation. Alors donc, il baptise le jeune Athanase. Alors c'est pour l'évêque Alexandre l'indication qu'il y a là peut-être un dessein de la Providence sur cet Athanase. Et l'auteur de ce vieux texte, Ruffin, nous raconte que l'évêque Alexandre va s'occuper de l'éducation d'Athanase et de ses compagnons qu'il a baptisés. Et la principale difficulté, évidemment, qui s'oppose à ce récit, ça vient de ce qu'Athanase n'était pas exactement un enfant quand Alexandre est devenu évêque d'Alexandrie vers 313. Athanase pouvait avoir 16-17 ans. Mais c'est déjà jeune à 16 ans pour baptiser, c'est-à-dire convaincre des copains de jeu, de discussion de la vérité de la foi catholique et de les baptiser. C'est déjà étonnant. En tout cas, il s'était familiarisé avec les diverses branches des connaissances chrétiennes, cet Athanase. Il y avait un désir de se former aux pratiques de la vie parfaite. Ça l'a attiré, ça, quelque temps au désert. Il s'est trouvé à ce moment-là, en relation suivie avec le patriarche des solitaires, le grand Saint-Antoine. Patriarche des solitaires, c'est-à-dire celui auquel on considère que l'on doit la façon de se retirer totalement du monde, totalement de la compagnie des autres, pour vivre seul, totalement seul, solitaire, voilà, avec Dieu. C'est une vocation extrêmement rare, très dangereuse, que je ne recommande pas à grand monde. J'en ai déjà interviewé à la télévision, à rencontre il y a déjà près d'une vingtaine d'années, j'avais interviewé l'un des hommes les plus riches de France, le fils du marquis de Vauguet, une des familles les plus riches de France, les plus puissantes, une famille ancienne, les Vauguet, famille d'intellectuels, famille de grands industriels, etc. Et le jeune marquis de Vauguet était entré, tout jeune à 20-21 ans, à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, où j'ai moi-même songé à rentrer en 1949, et puis je l'ai connu, je suis devenu un peu ami avec lui. C'est comme ça qu'il m'avait accordé une entrevue, parce qu'un ermite, il s'était fait ermite à la Pierre-qui-Vire, c'est-à-dire retiré du monastère. Il vivait à 1 kilomètre environ du monastère, dans le bois, dans une petite cabane. Il cultivait son propre jardin, ses propres légumes, et a publié des études extrêmement volumineuses sur la règle de Saint-Benoît d'abord et sur toutes sortes de choses relatives à la vie monastique, mais aussi à la vie érémitique, la vie de solitaire. Et cette entrevue qu'il nous avait donnée sur sa vie solitaire était bouleversante. C'est très émouvant. D'autant plus je m'étais permis quelques fantaisies, c'est-à-dire de montrer le château de Vaux-le-Vicomte où habitait son frère, qui est le plus beau château habité au monde. Et j'avais montré des photos de son père et de sa mère, le marquis, la marquise de Vauguet, qui, quittant une trentaine de serviteurs, de jardiniers, de laquais, de cuisinières, de dames de compagnie, de tout ce que vous voulez, quittaient tous les deux tout ce monde, ce grand monde des châteaux et des grands appartements de luxe à Paris, pour entrer tous les deux dans des monastères. Et justement, son père est allé le rejoindre à la Pierre-qui-Vire, où il est mort prêtre, et sa mère s'est faite bénédictine. C'est dire que la vie des solitaires, comme sa vie à lui, a marqué ses parents, a marqué sa famille, et a marqué des milliers de gens. Et c'est le rayonnement de l'exemple de la vie d'un solitaire. Je m'étends un peu là-dessus, parce que c'est important pour comprendre que cet Athanase, qui est un combattant, puisse avoir des hommes qui sont retirés du monde et puisse les aimer. D'ailleurs, dans l'avenir de la vie d'Athanase, il n'a pas de meilleurs amis que ces moines du désert. Ce sont les hommes qui l'inspirent. Et évidemment, l'éducation du jeune Athanase a été chrétienne. On apprend par Saint Grégoire de Nazianze, dont je vous ai déjà parlé, qu'il a eu une étonnante connaissance de la Bible. C'était pas un homme nécessairement très instruit, mais il connaissait bien sa Bible. Et c'est là qu'il puise pour affirmer les grandes vérités chrétiennes qu'il va défendre, à savoir surtout la divinité de Jésus. Une foi difficile à défendre, mais qu'il a défendue de façon fantastique. Et ses ouvrages, en raison des citations qu'il fait de la Bible, témoignent bien de cet amour qu'il a eu pour l'Ancien puis pour le Nouveau Testament. Il a eu aussi l'influence du milieu égyptien, de la culture grecque aussi, de la doctrine puis de la vie chrétienne. Tout ça a contribué à former une espèce de physionomie intellectuelle assez étonnante. Une physionomie morale aussi très puissante chez cet écrivain, puis nous a laissé 3 gros volumes dans l'immense patrologie de l'abbé Migne. Vous connaissez peut-être ça, la patrologie latine, la patrologie grecque. C'est des centaines et des centaines de volumes que l'abbé Migne a compilés. Et Athanase a 3 volumes là-dedans. C'est énorme. C'est un génie. C'est un grand écrivain, chez lequel se réalise finalement ce magnifique mélange de la clarté grecque et puis la vigueur égyptienne, car les Égyptiens, les Coptes, ont été réputés pour leur fermeté. C'est comme ça que les Coptes sont encore aujourd'hui 7 à 9 millions en Égypte, en plein milieu musulman, eux dont le pays a été conquis par l'islam au 7e siècle. Et on les retrouve 13 siècles plus tard, toujours aussi courageux et de plus en plus vivants. Vous savez dans l'église copte, malheureusement, en grande partie séparée de nous, de grands intellectuels du Caire et d'ailleurs entrent dans les monastères et deviennent des moines solides. Et Athanase lui est entré dans l'histoire par la littérature. Et son premier livre, ça a été le discours contre les gentils et sur l'incarnation du Verbe. Et il se réfère à Platon, puis à des anciennes défenses de ses dogmes. Et il fait de tout ça un livre où il dit « Quand le Sauveur ressuscité a tous les jours une telle action parmi les hommes et qu'il persuade tant de Grecs et de barbares de passer à sa foi et de se soumettre tous à son enseignement, ce n'est point là l'œuvre d'un mort, mais celle d'un vivant, et plus encore, c'est l'œuvre d'un Dieu. » Quand on regarde les 2000 ans de l'histoire de l'Église, c'est peut-être pas l'un des plus grands saints pour toucher notre cœur, pour nous émouvoir, comme Saint Vincent de Paul, ou même Saint Philippe Néri, ou Élisabeth de la Trinité, ou Thérèse de Lisieux, etc. Ou François d'Assise, et Claire d'Assise. Non, c'est autre chose. C'est un costaud. C'est un homme qui mérite notre estime. Vraiment, il le mérite. Il le mérite quand on pense à ce qu'il disait du Christ Jésus. Il dit « Le Sauveur est à l'œuvre parmi les hommes. Chaque jour et en tout lieu, Jésus attire les multitudes de Grecs et de barbares, leur fait recevoir sa doctrine et croire en lui. Comment rester en suspens devant ce fait? Comment mettre en question que le Sauveur soit ressuscité, que le Christ soit vivant? Comment douter qu'il ait lui-même la vie? » C'est dans son ouvrage de l'incarnation du Verbe, au tout début, au 4e verset. C'est saisissant. C'est un homme qui résume sa pensée dans des phrases comme celle que je viens de vous lire ou celle que je vous ai lue tout à l'heure. Toute l'œuvre entière d'Athanase est là. Et toute sa vie a été consacrée à défendre contre des tas d'hérétiques à cette époque-là la divinité du Sauveur Jésus. Ses énergies vont se concentrer contre tous ceux qu'on appelle à l'époque les hérétiques, qui commencent à s'agiter un peu partout. Hein. Évidemment, ce n'est qu'un début à l'automne de 323. C'est Arius dont je vous ai parlé un petit peu. Je vais m'étendre un peu sur le problème d'Arius. C'est un prêtre de Bocalis. Il pose le problème sur le terrain qu'on appelle dogmatique. Ce qu'il faut croire pour être vraiment un chrétien. Qu'est-ce qu'il faut croire? Ben d'abord que Dieu existe, c'est évident. Hein? Il faut croire aussi que ce Dieu s'est révélé à nous, ou dans des écrits qu'on appelle la Bible, et particulièrement dans ceux écrits par les évangélistes, les quatre évangiles, et les écrits qu'on appelle des épîtres, les lettres. Or, dans les épîtres de Saint Paul en particulier, comme dans les évangiles, il y a des affirmations. Or, lui, cet Arius, il explique gravement dans son église de Bocalis que le Verbe de Dieu n'est pas éternel. C'est ça qu'il dit. Qu'est-ce que c'est que le Verbe de Dieu? Je parle pour ceux qui sont étrangers à la foi chrétienne. Il y en a qui m'écoutent, je le sais. Mais le Verbe de Dieu, Verbe, ça veut dire parole. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui, de toute éternité, jaillit de Dieu et qui est une autre personne, qui est le Fils éternel, comme dit la tradition chrétienne. Alors lui, il dit qu'il a été créé dans le temps par Dieu le Père. Oui, il n'est pas éternel, dit-il, et que dès lors, ce Verbe éternel qui est Jésus-Christ ne mérite qu'improprement et par métaphore, dit-il, le titre de fils de Dieu. Alors, cet enseignement le fait un scandale épouvantable à l'époque. C'est tragique. C'est au fond l'enseignement que l'on entend assez souvent aujourd'hui. D'abord, on l'entend de la bouche des musulmans qui vivent parmi nous et qui enseignent la même chose. Mais on l'entend aussi de plus en plus de la bouche de nombreux protestants à travers le monde, non seulement des unitariens dont l'Église a brûlé rue Sherbrooke près de la rue Guy, il y a déjà une bonne dizaine d'années, sinon davantage. Les unitariens, on les appelle ainsi car ils s'opposent aux trinitariens que nous sommes, qui croyons que Dieu est trine, Père, Fils et Esprit de toute éternité, un seul Dieu, trois personnes. Alors cet enseignement a fait scandale et cet évêque, par tempérament, est assez dur, mais l'évêque, Athanase, lui aussi par tempérament, un vrai Égyptien est encore plus solide. Il veut maintenir la paix. Il demande des explications. Et le clergé d'Alexandrie juge que ce que dit Arius est contraire à la tradition. Puis là, l'épiscopat, les évêques d'Égypte sont convoqués. Et puis, il confirme à deux exceptions près que Arius doit être déposé. Et avec lui, cinq autres prêtres, six diacres. Ça crée déjà une tension terrible, ça. Mais Arius ne se tient pas pour battu. Il se réfugie. Il se réfugie à Césarée. Là, on le reçoit avec honneur, parce qu'on est tombé dans cette hérésie. Et Arius travaille, là, à recruter des partisans. Et puis, il y a même un évêque, Eusèbe, qui est très réputé à l'époque, qui lui écrit, « Tu penses bien, Arius, tu pries pour que tous ceux... et qui ne pense pas comme toi, en arrive à penser comme toi. Car il est évident que ce qui a été fait n'était pas avant d'exister. En somme, le Christ a été fait et n'existait pas avant d'exister. C'est ça que ça veut dire. Alors, dès lors, l'Orient entier est en feu. Alors là, il y a des lettres contradictoires qui partent à tout instant des grandes villes comme Alexandrie, puis Nicomédie. On réunit plusieurs conciles. Alors, il y a des conciles qui sont convoqués par des évêques ici en Syrie, d'autres ailleurs, et puis, je vous explique pas tout ça, c'est très complexe. Et puis, on finit par excommunier les principaux partisans de l'hérésie d'Arius. À Alexandrie, toujours cette métropole de l'Égypte, où est Athanase, l'agitation continue. Arius est un homme austère, c'est un ascète, qui a su se concilier bien des sympathies. Il y a des femmes pieuses, il y a des vierges qui combattent pour lui. On écrit des chants populaires, des essais de théologie vulgarisés pour essayer de propager ses idées. Plus tard, bien, Athanase va s'élever contre ses essais. Mais quel est son rôle durant cette première période d'agitation? On ne sait pas au juste. Mais il se peut que dès lors, il a averti son évêque, parce qu'il n'est pas encore évêque en titre, du danger que la doctrine nouvelle fait courir à l'orthodoxie, et qu'il a insisté pour obtenir la déposition d'Arius. Il aurait même rédigé la lettre encyclique de l'évêque en titre Alexandre, qui annonce au monde catholique la condamnation de l'hérétique Arius. Je vous fais grâce de tout ce qui s'ensuit. C'est très complexe. Ce sont des disputes, des chicanes, des moments où Athanase est chassé de son siège épiscopal. Il revient, il est acclamé par la foule, mais il y a un second exil. Il doit se retirer encore, défendre sa cause auprès du pape. Et il est toujours solide dans ses convictions. Il se donne tout entier à ce qu'il regarde comme son devoir. Il s'étonne pourtant de la paix dont il peut jouir à partir de l'an 346. Mais ça ne peut pas durer. Il y a un soulèvement militaire en Occident en l'an 350. L'empereur Constant est tué. Et puis, il y a des soulèvements de toutes sortes. Ça incite les hérétiques à combattre davantage. On n'arrive plus à établir la paix, vraiment. Il y a même un troisième exil de ce pauvre Athanase qui doit quitter encore Alexandrie. Il écrit des lettres pour se défendre. Il trouve le moyen de défendre vraiment la vraie foi. Tout est extrêmement complexe. Et la doctrine d'Arius, l'arianisme, finit par triompher un peu partout, sauf en Gaule. Et le premier soin d'Alexandre est d'assurer le rétablissement de la foi vraie, la foi orthodoxe, la foi catholique. Et au printemps de 362, il réunit un concile. Les 21 membres sont des Égyptiens ou des Libyens. Bien oui, des Libyens, c'était catholique dans le temps, la Libye. Mais ils étaient des exilés qui avaient été rappelés par les décrets de l'empereur Julien. Et là, Athanase a été l'inspirateur, puis l'âme de l'Assemblée. Sur son initiative, on accorde le pardon le plus complet aux prêtres puis aux évêques qui étaient devenus arianistes que parce qu'ils avaient craint ou bien parce qu'ils avaient été séduits sans trop s'en rendre compte. Mais les meneurs, eux, ont été condamnés et à ce qu'on appelle la communion laïque. Puis la formule qui avait été décidée au Concile de Nicée, qui avait affermi la foi, vous savez, il y a un symbole de Nicée, on raconte ça, il y a le symbole des apôtres, le symbole de Nicée, c'est le credo, le « Je crois en Dieu », beaucoup plus long, il est magnifique d'ailleurs, si on ne le récite que bien rarement, malheureusement. Eh bien, le symbole de Nicée est toujours resté la marque de l'orthodoxie. Puis un concile qui a eu lieu à Alexandrie, a exigé que tout le monde reconnaisse ce credo, le récite et y adhère, fasse preuve d'adhérence. Mais on constatait qu'il y avait, ça avait besoin d'explications, de nouvelles explications. Mais l'heure du triomphe n'était pas encore arrivée, puis à Antioche surtout. Malgré la bonne volonté d'Athanase, la situation n'était pas près de s'éclaircir. Antioche, c'est en Syrie, hein? Alors, il y a eu des schismes. Mais je vous fais grâce de la suite. C'est peine perdue. Ce sont des complications et des complications. Et on en arrive à la mort de cet Athanase. C'était en 373. On peut dire que depuis 46 ans, ce grand évêque d'Alexandrie, Athanase, gouvernait son Église avec vigueur. Pas une minute, il n'avait manqué à son devoir. Pas une minute, il n'avait modifié sa ligne de conduite. On peut dire que Dieu a jugé que ce bon serviteur qui avait tant travaillé était digne de se reposer enfin. Et Dieu est venu le rappeler à lui au début de la nuit du 2 au 3 mai. De l'an 373. Et quelque temps avant de mourir, l'évêque Athanase, qui sentait que sa fin était proche, avait désigné son propre frère Pierre pour lui succéder comme évêque d'Alexandrie, qui était la métropole, je vous le rappelle, de l'Égypte. C'était un siège extrêmement important dans le christianisme de cette époque. Alors il était donc prêt, Athanase, au sacrifice suprême. Mourir. Mais ce n'était pas un sacrifice pour lui. C'était rejoindre celui qu'il aimait et qu'il avait tant servi. Et ainsi s'achève cette vie d'Athanase d'une manière digne de ses premiers débuts. Ça s'est achevé au milieu du travail, un travail ininterrompu pour la foi et pour l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. Cette unité qui est fondamentale et désirée par Jésus-Christ. Soyez un. Oui, soyez unis. C'est ce que dit Jésus. Et dès ses plus jeunes années, s'était fixé cette œuvre qu'il devait accomplir. Notre Seigneur Jésus lui a donné de s'y dépenser jusqu'à la fin. On peut dire qu'à aucun instant, on n'a pu saisir un signe de lassitude chez cet homme qui fut chassé tant de fois de son siège d'évêque. On n'a jamais pu trouver dans ses écrits le moindre signe de découragement. Dans cette âme immense qui était toujours sur la brèche, toujours occupée à batailler et à préparer les armes pour défendre la vraie foi, il les a défendues de façon peut-être trop forte, trop audacieuse, mais c'était l'époque. D'autres moins intrépides se seraient découragés devant un tel combat. Tant de revers aussi, tant de rappels, puis d'exil, puis de rappels. Il est rappelé à Alexandrie, il doit partir en exil. Lui, il y trouve plus de courage. Et son rôle, à une époque si troublée, où il a vécu, a été d'être le témoin de la vérité, au milieu des hommes prêts à toutes les compromissions, à toutes les lâchetés. Il y demeurait inébranlable. C'est pour ça que Saint Grégoire de Nazianze l'a appelé une colonne de l'Église, considérant que l'Église est comme un immense temple où les colonnes sont celles qui assurent les arcs qui retiennent la toiture. C'est sur les colonnes que sont établies les grandes cathédrales. Il y a dans la vie d'Athanase un moment après un double exil où il se rend à Rimini en Italie et en Séleucie, où la foi orthodoxe du concile de Nicée a paru emporté par le torrent de l'arianisme qui monte, mais Athanase, presque seul, est demeuré fidèle à la profession de la foi de sa jeunesse, et c'était assez. Aussi longtemps qu'un homme continue à combattre, il n'y a pas lieu de désespérer. Ses contemporains l'ont bien compris. Peu d'hommes ont été de leur vivant l'objet d'autant de haine et en même temps d'autant d'amour. Pour ses compatriotes, les Égyptiens, il n'était pas seulement une incarnation la plus parfaite du tempérament et du caractère national des Égyptiens, la fierté patriotique bien comprise. Il apparaissait aussi comme couronné d'une espèce d'auréole que donne une autorité suprême. On peut dire que depuis la mer Méditerranée jusqu'aux grandes chutes du Nil, quand on descend à travers l'Égypte, là, il lui suffisait de faire un geste, de prononcer une parole pour être aussitôt obéi de tous. Les évêques, les moines, les vierges, les religieuses, quoi. Sans parler de les matelots de la flotte d'Alexandrie, qui faisaient une sorte de garde du corps. Et plus que cela, on peut dire qu'il était l'évêque, l'ascète, le saint. De ces titres de louange par lesquels ses fidèles avaient accueilli l'annonce de son élection comme évêque d'Alexandrie, mais Athanase n'a jamais cessé de les mériter de plus en plus, jusqu'à son dernier souffle. En dehors de l'Égypte, il était surtout regardé comme le représentant d'une idée et d'une croyance que je vous rappelle fondamentale dans le christianisme. Et quiconque le défendait, défendait quoi? Défendait la foi énoncée au concile de Nicée, je vous le rappelle, énoncée dans ce credo, dans ce « Je crois en Dieu » que vous avez dans vos missels, que l'on récite maintenant rarement depuis quelques années, qui est le grand credo, si beau, si beau. Et on peut dire que d'instinct, tous les orthodoxes venaient se ranger sous sa bannière. Chacune de ses victoires était une victoire de la vérité. Et ses exils pouvaient sembler être des défaites de la vraie foi. Mais en lui restant fidèle, ses amis témoignaient de leur attachement au symbole des 318 pères du concile de Nicée. Et je ne crois pas qu'un seul d'entre eux ait jamais trahi son amitié. Un grand saint, car peu d'hommes ont été de leur vivant autant l'objet de haine et d'amour, comme je vous ai dit. Le miracle de la vie de saint Athanase, c'est peut-être d'avoir été un signe de contradiction, comme tout chrétien qui affirme sa foi, spécialement de nos jours. Nous sommes des signes de contradiction, mais évitons de nous fâcher un peu comme Athanase. Soyons plus souples. Nous avons appris à dialoguer avec amour, avec simplicité. On ne sait pas trop si Athanase était bon et charitable, s'il a eu pitié des malheureux. Il est dû, je l'espère. Nous savons, je le répète, qu'il était dur à l'égard de ses adversaires. Il craignait pas d'user contre eux même de mesures assez rigoureuses. Il a été ferme. Ce qui frappe le plus, comme je vous ai dit au tout début, chez lui, c'est qu'il a été un caractère. Avec ses grandes qualités, il n'y a pas à s'étonner qu'Athanase se soit élevé jusqu'à la sainteté. Ça prend du caractère pour être un saint. Même chez une petite Thérèse de Lisieux ou une petite bergère, ces petites filles, ces petites femmes ont du caractère. On n'est pas saint en étant des mollassons. On n'est pas saint en étant distrait. On n'est pas saint en étant des petits angoissés tourmentés. On est saint en étant libre. Libre. Audacieux. Et tout de suite après sa mort, on a commencé à l'honorer. Il est l'un des premiers évêques non-martyrs qui ait reçu un culte public. D'ailleurs, dans un long panégyrique, vous savez, c'est un discours qu'on prononce quand quelqu'un meurt pour lui rendre hommage. Eh bien, dans un long panégyrique prononcé le 2 mai, probablement de l'an 379, Saint Grégoire de Nazianze l'a associé dans un éloge commun aux patriarches, aux prophètes, aux apôtres et aux martyrs qui ont combattu pour la vérité. Si nous croyons aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont su maintenir la vraie foi et non pas l'abandonner, qui ont su aimer assez Jésus pour le reconnaître pour ce qu'il est, non pas pour ce que l'on voudrait en faire n'importe comment. Pour croire vraiment, je suis la voie, la vérité et la vie, dit Jésus. S'il est la voie, suivons ce chemin. S'il est la vérité, embrassons-le. Embrassons la vérité. Lisons les évangiles et mettons-les en pratique, de façon concrète et totale, dans la mesure de nos moyens, selon les circonstances de nos vies. L'assimilation de Athanase aux grands évêques, aux ascètes, est fréquente d'ailleurs dans les écrits des pères avant la fin du IVe siècle. Son corps a été transporté à Sainte-Sophie de Constantinople, que les musulmans ont transformé en 1453 en mosquée. On ne sait au juste à quelle époque il a été transporté à Sainte-Sophie de Constantinople, au cœur de l'Église orthodoxe. Mais on sait que le corps d'Athanase a été, en 1454, l'année après la conquête, apporté à Venise. Sa tête, comme on dit le chef, sa tête serait, selon les uns en Espagne, selon d'autres, et c'est assez curieux, à Saint-Blancé. C'est une petite paroisse du diocèse de Tours, dont plusieurs de nos familles québécoises viennent. Et d'où vient Marie de l'Incarnation, dont je vous ai parlé lors de la dernière émission du 12e mois de ses rencontres spirituelles, le 30 avril, il y a quelques jours, avant-hier. Sa fête chez les Grecs se célèbre le 18 janvier, avec celle de Saint-Cyrille d'Alexandrie, mais elle est aussi célébrée le 2 mai, comme chez nous, qui appartenons à ce que nous appelons l'Église latine. Et on sait qu'il y a une église qui lui est dédiée à Rome depuis le XVIe siècle. Je vous ai parlé tout à l'heure des Coptes d'Égypte, dont Athanase est l'un des grands saints. Eh bien, ils ont une liturgie particulière qui a évolué et qui s'est moulé justement sur le monachisme qui a été si fort en Égypte. Je vais vous en parler jeudi de la semaine prochaine en parlant de Saint Pacôme. Alors, c'est pas seulement le Fils divin chez eux, mais toute la célébration eucharistique qui a été marquée par l'empreinte du monachisme. Alors, c'est une liturgie où il y a de longues psalmodies. C'est un caractère biblique très fort, une grande austérité. Et pour la célébration eucharistique, les Coptes ont trois liturgies, c'est celle de Saint-Cyrille, celle de Saint-Marc, celle de Saint-Basile. Il y a aussi une liturgie de Saint-Grégoire de Nazianze pour les fêtes de Noël, Épiphanie et Pâques. Il y a des hymnes très longues. C'est une liturgie
qui paraît proche de la liturgie des anciens moines du désert. Elle est lente et longue à l'excès. J'y suis déjà allé quelquefois, car il y a des coptes catholiques et on peut assister. Il y a à Montréal une paroisse copte catholique. C'est une liturgie qui manifeste peu de déploiement extérieur. Il y a quelques gestes expressifs. Ainsi, les célébrants vont enlever leurs chaussures avant d'entrer dans le sanctuaire. Puis, à côté du copte, bien, il y a la langue copte, qui est l'ancienne langue égyptienne, car copte, ça vient de Égyptos. Égyptos, coptos et copte, voyez-vous. Il y a la langue arabe qui a pris une grande place dans la célébration des chants, des acclamations. Et il y a des acclamations qui sont maintenues en grec. Et le peuple participe de façon très active, même durant le canon de la messe. Alors, je vous recommande aujourd'hui de prier Saint Athanase pour vous redonner une foi encore plus vivante en la divinité de Jésus, en la grandeur de Jésus, en la bonté de Jésus.